La querelle faisait encore rage lorsque l'un des novices de garde à la porte entra, passant au milieu de cette confusion comme qui traverse un champ battu par la grêle, et vint glisser à l'oreille de Guillaume que Séverin désirait lui parler d'urgence. Nous sortîmes dans le narthex bondé de moines curieux qui tentaient de saisir au milieu des cris et des bruits quelque chose de ce qui se passait à l'intérieur. Au premier rang, nous vîmes Aymaro d'Alexandrie, qui nous accueillit avec son habituel rictus de commisération pour l'imbécilité de l'univers entier. Certes, depuis qu'on fleurit les ordres mendiants, la chrétienté est devenue plus vertueuse, dit-il. Guillaume l'écarta, non sans brusquerie, et se dirigea sur Séverin qui nous attendait dans un coin. Il était anxieux. Il voulait nous entretenir en privé, mais on ne pouvait trouver un endroit tranquille dans ce tohu-bohu. Nous voulions sortir en plein air, mais sur le seuil de la salle capitulaire apparaissait Michel de Cézennes qui exhortait Guillaume à rentrer car, disait-il, la querelle se vidait et on devait continuer la série d'interventions. Guillaume, partagé entre les deux sacs de foin, incita Séverin à parler et l'herboriste chercha de ne pas se faire entendre des présents. « Béranger a sûrement été à l'hôpital avant de se rendre au balnéa, dit-il. « Comment le sais-tu ? » Quelques moines s'approchaient intrigués par notre entretien. Séverin parla à voix encore plus basse en jetant des coups d'œil circulaires. « Tu m'avais bien dit que cet homme devait avoir quelque chose avec lui. Bien, j'ai trouvé quelque chose dans mon laboratoire, au milieu des autres livres. Un livre qui ne m'appartient pas. Un livre étrange.
« Ce doit être lui, » dit Guillaume triomphant. « Apporte-le-moi tout de suite. »
« Je ne peux pas, » dit Séverin, « je t'expliquerai, j'ai découvert, je crois avoir découvert quelque chose d'intéressant, il faut que tu viennes, toi, il faut que je te montre le livre avec prudence. »
Il arrêta de parler. Nous nous aperçûmes que, silencieux comme de coutume, Jorge avait surgi presque à l'improviste à nos côtés. Il tendait les mains devant lui comme si, non habitué à se diriger dans ce lieu, il cherchait à comprendre où il allait. Une personne normale n'aurait pu entendre les murmures de Séverin. Mais nous avions compris depuis beau temps que l'ouïe de Jorge, comme celle de tous les aveugles, était particulièrement aiguë. Le vieillard eut toutefois l'air de n'avoir rien entendu. Il s'en alla même dans une direction opposée à la nôtre, toucha un des moines et demanda quelque chose. Celui-ci le soutint avec délicatesse au bras et le conduisit dehors. À ce moment-là, réapparut Michel, qui sollicita de nouveau Guillaume, et mon maître prit une résolution.
« Je t'en conjure, » dit-il à Séverin, « retourne sur le champ d'où tu viens. Enferme-toi à double tour et attends-moi. »«
Toi, » me dit-il en se tournant vers moi, « suis Jorge. Même s'il a entendu quelque chose, je ne crois pas qu'il se fasse emmener à l'hôpital. En tout cas, tâche de me dire où il va. »
Il s'apprêta à rentrer dans la salle et aperçut, comme je l'aperçus moi aussi, Aymaro, jouant des coudes dans la foule pour suivre Jorge qui sortait. C'est alors que Guillaume commit une imprudence, car cette fois à voix haute, d'un bout à l'autre du narthex, il dit à Séverin déjà sur le seuil extérieur
« C'est bien entendu, ne permet à personne que ces feuillets retournent d'où ils sont sortis !»
Moi qui m'apprêtais à suivre Jorge, je vis à cet instant adossé au montant de la porte extérieure le scélérier. Il avait entendu les paroles de Guillaume, et il regardait alternativement mon maître et l'herboriste, le visage contracté de peur. Il vit Séverin qui s'en allait, il le suivit. Moi, sur le seuil, je craignais de perdre de vue Jorge qui allait disparaître, avalé par le brouillard. Mais les deux autres aussi, dans la direction opposée, allaient disparaître de même. Je calculai rapidement ce que je devais faire. Il m'avait été ordonné de suivre l'aveugle, mais dans la crainte qu'il n'aille vers l'hôpital. En revanche, la direction qu'il prenait avec son accompagnateur était tout autre, parce qu'il traversait le cloître, marchant vers l'église ou l'édifice. Par contre, le scélérier était certainement en train de suivre l'herboriste, et Guillaume s'inquiétait de ce qui pourrait se passer dans le laboratoire. Aussi me mis-je à suivre ces deux-là, en me demandant entre autres où se rendait Aymaro, si toutefois il n'était pas sorti pour des raisons fort différentes des nôtres. Me tenant à une distance raisonnable, je ne perdais pas de vue le scélérier, qui ralentissait le pas parce qu'il s'était aperçu que je le suivais. Il ne pouvait pas savoir si l'ombre qui le talonnait c'était moi. Comme moi, je ne pouvais pas savoir si l'ombre que je talonnais c'était lui. Mais comme moi, je n'avais aucun doute à son sujet, lui n'avait aucun doute à mon sujet. En le contraignant à me contrôler, je l'empêchais de serrer de trop près Séverin. Ainsi, quand la porte de l'hôpital apparut dans le brouillard, elle était déjà refermée. Séverin s'était désormais claquemuré grâce au ciel. Le scélérier se retourna encore une fois pour me regarder,
moi qui restais immobile comme une souche, puis il parut prendre une décision et se dirigea vers les cuisines. Il me sembla avoir rempli ma mission. Séverin était un homme plein de bon sens, il se garderait tout seul sans ouvrir à personne. Je n'avais plus rien d'autre à faire et surtout, je brûlais de la curiosité de voir ce qui se passait dans la salle capitulaire. Je décidai donc de revenir faire mon rapport à Guillaume. Peut-être fût-ce une erreur de ma part. J'aurais dû monter encore la garde et nous aurions évité beaucoup d'autres malheurs. Mais cela, je le sais à présent, je ne le savais pas alors. Tandis que je rentrais, il s'en fallut de peu que je ne me heurtasse à Bensé qui souriait d'un air complice. « Séverin a trouvé quelque chose dont Béranger s'était défait, n'est-ce pas ?»«
Qu'en sais-tu, toi ?» lui répondis-je insolemment, le traitant comme un de mon âge, en partie par colère et en partie à cause de son visage jeune qui prenait maintenant une expression malicieuse, presque enfantine.
« Je ne suis pas un idiot, » répondit Bensé. « Séverin court dire quelque chose à Guillaume, toi tu contrôles si personne ne le suit,
et toi tu nous observes un peu trop, nous et Séverin, » dis-je irrité.
« Moi ? Bien sûr que je vous observe. Depuis avant-hier, je ne perds de vue ni les balnéas ni l'hôpital. L'eussé-je pu, j'y serais déjà entré. Je donnerais les yeux de la tête pour savoir ce que Béranger a trouvé dans la bibliothèque.
Tu veux savoir trop de choses, sans en avoir le droit.
Moi, je suis un escolier, et j'ai le droit de savoir. Je suis venu des confins du monde pour connaître la bibliothèque, et la bibliothèque reste fermée comme si elle renfermait des choses mauvaises, et moi...
Laisse-moi aller, dis-je d'un ton brusque.
« Je te laisse aller, d'ailleurs, tu m'as dit ce que je voulais. »«
Moi ?»«
On parle même en se taisant. »«
Je te conseille de ne pas entrer dans l'hôpital, lui dis-je. »«
Je n'entrerai pas, sois tranquille, mais personne ne m'interdit de regarder de l'extérieur. »
Je ne l'écoutai plus et rentrai.
Ce curieux, me sembla-t-il, ne représentait pas un grand danger. Je me rapprochai de Guillaume et le mis brièvement au courant des faits. Il hocha la tête en marque d'approbation, puis il me fit signe de me taire. La confusion allait décroissant désormais. Les légats des deux parties échangeaient le baiser de la paix. Alboréa louait la foi des minorites, Jérôme exaltait la charité des prêcheurs, tous acclamaient l'espérance d'une église plus jamais agitée par les luttes intestines. Qui célébrait le courage des uns, qui la tempérance des autres, tous invoquaient la justice et en appelaient à la prudence. Jamais je ne vis autant d'hommes visant aussi sincèrement au triomphe des vertus théologales et cardinales. Mais déjà Bertrand du Poghetto invitait Guillaume à exprimer les thèses des théologiens impériaux.